découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress ? Déstress.
Nutrithérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
En direct, non pas au théâtre de l'Épée de Bois. Ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière savent maintenant que Jean-Paul Curtet a fait du théâtre, ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est un homme qui, je pense, il occupe bien la scène, on le sait lorsqu'il fait ses conférences, et donc il était aussi précurseur et innovant sur la forme artistique au théâtre. C'était une performance que l'on essaie de retrouver, hein. Les archives, toutes les équipes sont mobilisées aux quatre coins du monde pour retrouver.
Ah, merci Fabrice de mobiliser.
Eh oui, c'est important. Franchement, ce serait un beau cadeau qu'on pourrait vous offrir, mais malheureusement, vous dites que ça n'a pas été filmé. Quel dommage, quel dommage. Bon, il y a peut-être des petits trucs quand même, des gens qui traînaient avec un petit iPhone de l'époque. Bon, c'est vrai que ça passe tellement vite la techno, vous suivez-vous tout ce qui est intelligence artificielle, Jean-Paul?
Là pour le moment j'attends que ça se calme un peu pour voir ce qu'on peut faire avec, mais non, c'est certainement très intéressant, mais comme tout outil, hein, on peut l'utiliser, une fourchette pour manger ou pour crever l'œil de quelqu'un, donc faut voir comment c'est utilisé.
Ouais, et puis ça va tellement vite, franchement, il y a tellement de choses, on se réveille le matin, on a l'impression que si on n'a pas suivi ça à la lettre, on a déjà deux siècles d'écart. Vous avez raison, le mieux c'est de peut-être un petit peu observer comment ça évolue. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit la semaine dernière, on va aborder un très grand chapitre, quelque chose d'important, une maladie auto-immune qui touche de nombreuses personnes et parfois de manière très grave, la polyarthrite rhumatoïde. Mais et avant que vous puissiez développer, on va quand même, avant que j'oublie, remercier notre partenaire sur ces émissions, le laboratoire Synergia. Expert depuis plus de 20 ans dans les compléments alimentaires innovants à base de minéraux, de vitamines, d'acides aminés et de plantes. Merci à eux. Alors, allons-y pour la polyarthrite rhumatoïde, Jean-Paul.
Oui. Alors bon, les rhumatologues, évidemment, ils voient surtout des gens qui ont de l'arthrose, puisque pratiquement tout le monde fait de l'arthrose avec l'âge, mais bon. La deuxième maladie rhumatologique en fréquence, c'est cette fameuse polyarthrite rhumatoïde, et là malheureusement, on n'est pas du tout dans le même rayon, elle est encore plus handicapante, nettement plus handicapante que l'arthrose. Elle touche une personne sur 100 à une personne sur 200 en fonction des pays. Et là, on est en plein dans la pathologie auto-immune. C'est la plus fréquente de ces pathologies. Et comme toute pathologie dite dégénérative, elle augmente avec l'âge, puisqu'elle fait partie de ces maladies, comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'arthrose, l'arthrose, l'ostéoporose, la cataracte, la DMLA, tout ce qui augmente avec le vieillissement, c'est le même bruit de fond moléculaire. Vous rappelez les quatre corrosions? Le stress oxydatif, l'inflammation qui est notre sujet de cette année, mais aussi la pollution, et puis une petite dernière venue, on aura peut-être l'occasion d'en parler, les cellules sénescentes, hein, que c'est vraiment une découverte récente, qui envahissent avec l'âge les tissus et sécrètent des substances, des messagers, hein, les cytokines, que maintenant je pense tout le monde connaît suite à la Covid, les cytokines qui vont faire des dégâts un peu partout. Donc avant 50 ans, elle touche surtout les femmes. Vous rappelez que les femmes, elles ont une meilleure défense anti-infectieuse que les hommes, mais malheureusement, elles font du coup plus de maladies auto-immunes. Donc les hommes sont 4 à 5 fois moins atteints avant cet âge-là. Par contre, après 60 ans, il y a un petit rattrapage, un tiers des malades sont des hommes. Lorsque on recherche les auto-anticorps de toutes sortes, hein, aux surprises, on en a tous pratiquement dans notre sang en circulation. Je vous donne un exemple. Les Estoniens, là, qui sont pays baltes à la frontière russe, ils sont pas très à l'aise en ce moment. Ils ne recherchent que 6 auto-anticorps dans la cohorte Estonian Genome Project de plus de 50 000 personnes. Ils détectent seulement, en recherchant que 6 auto-anticorps, chez plus de 30% d'entre eux. Or, on recense plus de 200 auto-anticorps différents. Et comme je vous le dis, tout le monde en a avec l'âge de plus en plus. On en trouve, voilà. Et alors, il y a des auto-anticorps spécifiques hein, de la polyarthrite rhumatoïde, des facteurs rhumatoïdes. Il y en a même chez 20% des seniors, alors qu'ils ne sont pas atteints de polyarthrite rhumatoïde. Hein, je rappelle que avec l'âge, on s'use. Hein. Bon, ça, c'est pas une révélation, mais tout le monde donc perd de l'os, du muscle, du neurone, a une moins bonne immunité, la mémoire aussi qui peut commencer à flancher. Tout le monde épaissit ses artères, etc., etc. Mais tout le monde ne fait pas la maladie grave, d'accord? Il faut des facteurs de risque qui se conjuguent et qui vont, sur le même bruit de fond, les quatre corrosions dont on a parlé, entraîner ben, une de ces maladies génératives parmi les autres. Donc vous rappelez que... Est-ce que la pause réclame? Est-ce qu'il y a une pause qui se réclame là?
Ah ben, non. Si vous réclamez la pause, on la met. J'allais vous laisser encore quelques secondes. Mais
non, c'est mieux de couper là parce que on va voir les raisons pour lesquelles on fait des auto-anticorps de nouveau.
Alors restez avec nous, mesdames et messieurs. On continue la suite passionnante de cette émission. Ce sera dans un tout petit instant. On parle de polyarthrite rhumatoïde avec le docteur Jean-Paul Curtet.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Et on parle avec le docteur Jean-Paul Curtet de la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, juste avant la pause, vous nous expliquiez que les auto-anticorps augmentent avec l'âge, mais alors comment expliquer qu'ils augmentent sans systématiquement déclencher une pathologie?
Oui, parce que ça fait partie de l'usure moléculaire. Notre usure, on a quatre corrosions hein, qui nous endommagent à tous les niveaux. Et là, il n'y a pas de distinction. Hein. Par exemple, les radicaux libres sont aveugles, ils tapent sur l'ADN, ils tapent sur les protéines, ils tapent sur les membranes cellulaires, ils tapent sur n'importe quoi.
Est-ce qu'ils tapent sur des bambous?
On n'est pas... Voilà.
Autant pour moi.
Donc, on est irradié d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a moins de tissus, qu'il est moins beau avec l'âge, que les fonctions déclinent. Voilà, c'était une des choses qui m'a le plus intéressé en médecine, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on s'use comme ça et pourquoi, bon, surtout que c'est associé à toutes ces pathologies embêtantes qui arrivent en dernière partie de vie. On aimerait bien finir tranquille son parcours.
Ah bah oui.
Donc, pourquoi faisons-nous des auto-anticorps? Bon, vous rappelez le soie dans le ventre de sa mère, on identifiait le groupe HLA, bon, etc. Après, les protéines qui sont modifiées soit directement, soit pas, parce que l'ADN a été bombardé et qu'il a été mal réparé. Vous rappelez, jusqu'à 500 000, 1 million de lésions par jour. Bon, faut les réparer. Il y a des patrouilleurs, les chirurgiens du génome. On coupe les parties endommagées. On les remplace, on les rattache avec des ligases. Bon. Mais, bon. Toutes ces outils de réparation du génome, ils sont aussi codés par des gènes, évidemment. Hein, tout est codé par des gènes. Et donc, ils sont aussi irradiés. Et c'est pour ça qu'avec l'âge, ils sont moins efficaces et que on a donc de l'ADN tellement modifié qu'il va faire des protéines différentes qui sont plus dans le catalogue de soi et on se les attaque soi-même. Voilà. Donc ça, c'est la raison principale. Mais il y en a d'autres. Par exemple, des virus hein, qui peuvent s'insérer dans l'ADN. Par exemple, on a dans le diabète de type 1 incriminé un virus Coxsackie, mais vous rappelez l'angina streptocoque qui peut attaquer les valves cardiaques. Alors dans la polyarthrite rhumatoïde, on a montré une association, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Bon, les chercheurs, ils aiment bien faire des percées, donc ils cherchent, est-ce qu'il n'y a pas un facteur microbien? Donc par exemple, Borrelia, le fameux agent de la maladie de Lyme, a été suspecté d'être un cofacteur de maladie auto-immune, en particulier rhumatoïde, un virus de la rougeole, le virus d'Epstein-Barr qui donne la mononucléose infectieuse à une maladie fatigante, mais aussi même des cystites à Proteus ont été montrés augmenter les risques. Les chercheurs de l'Université centrale de Floride ont détecté chez 40% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde des anticorps contre une mycobactérie que l'on trouve chez la vache dans les produits laitiers, dans la viande de bœuf et de mouton. On l'appelle MAP, Mycobacterium avium paratuberculosis. Et c'est assez fréquent. Hein. Aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de vaches infectées. J'ai appris qu'à La Réunion, il y en a aussi pas mal. C'est aussi suspecté d'augmenter les risques de cancer du sein. Bon, c'est pas extraordinaire. Cette relation est retrouvée pour d'autres maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn ou la thyroïdite d'Hashimoto, qui est aussi une maladie très fréquente qui touche des femmes plus jeunes.
Alors ça, c'est la
une
qualité.
Autre étude, oui, pardon.
Ça, c'est la qualité par rapport au danger de la viande, là, de la viande bovine notamment. C'est dû à la viande ou c'est dû à la qualité, la mauvaise qualité de l'herbe qu'ils mangent ou de l'alimentation
Non, c'est un agent infectieux. Ils sont infectés par une tuberculose bovine.
Okay.
C'est l'agent infectieux qui est dans le lait, qui est dans la viande et qui est consommé par le consommateur.
Mais indépendamment de la qualité de ce que la vache va manger.
Absolument, ça n'a absolument rien à voir. C'est une maladie infectieuse. Donc, alors évidemment, les animaux maltraités, ils sont plus immunodéprimés, ils peuvent attraper plus, mais disons que bon, non, c'est vraiment le problème de l'infection.
D'accord, vous allez parler d'une autre étude.
Oui. Alors, par exemple, si on recherche chez des patients atteints de polyarthrite cette mycobactérie, on en trouve quand même 34%, alors que si on a fait la même recherche chez des patients qui n'ont pas de polyarthrite rhumatoïde, on en trouve que 8%. Hein. Donc, y a vraiment une différence. Mais évidemment, ça ne va pas expliquer tout seul la polyarthrite rhumatoïde, maladie complexe, hein, multifactorielle, mais donc on suspecte qu'il y a une dimension infectieuse qui joue un rôle. Et puis, toute infection amène les protéines qui signalent un danger à se placer sur les globules blancs. Hein. Donc, ça active le système immunitaire. Comme les agressions, le tabagisme, la pollution de toutes sortes, on est gâté à ce point-là, sur ce plan-là. Donc, les infections peuvent avoir un double effet. D'un côté, endommager les gènes qui se mettent à engendrer des protéines modifiées, hein, puisque vous rappelez que les globules blancs, pour attaquer les virus, les polluants, ils sécrètent des cytokines et des substances oxydantes corrosives. Voilà. Et la fameuse dysbiose intestinale. Bon, tout ça, c'est souvent présent et s'ajoute, ça fait une sorte de synergie. Hein. Entre tous ces éléments qui s'amplifient les uns les autres.
Alors, la dysbiose intestinale, elle peut influencer une maladie comme la polyarthrite ?
Absolument. Malheureusement, toutes les pathologies qu'on étudie ont une dimension dysbiose. Mais aussi, il faut quand même se méfier d'un truc, c'est que les gens mangent tellement mal et ils sont stressés et pollués qu'ils ont tous une flore altérée. Alors, voilà. Mais on se rend compte que l'altération de cette flore, vous rappelez, altère la muqueuse, laisse passer des morceaux de bactéries, parfois des bactéries entières, des morceaux de protéines non digérées, et tout ça, ça crée des agressions, hein, qui créent des réactions, d'où cette inflammation dite bas bruit, hein, du leaky gut.
Vous nous rappelez, s'il vous plaît, Jean-Paul, rapidement, les symptômes de la polyarthrite ?
Alors oui, la polyarthrite, c'est comme son nom l'indique, poly, hein, plusieurs. Il y a plusieurs articulations touchées qui sont gonflées, qui sont rouges, qui sont douloureuses. Ça réduit la mobilité, hein, donc ça peut toucher toutes les articulations du corps. Mais ça en touche plusieurs, polyarthrite.
Ah, et ça se propage, il y a une petite douleur, il faut être inquiet dès la première douleur articulaire quelque part.
Aïe, aïe. Non. Non. On a mal pour si on fait n'importe quoi. Enfin bon, un peu trop de sport. Donc c'est pas non. Pour faire un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, c'est technique. Hein. Il faut qu'il y ait des auto-anticorps. On détecte des résidus phosphatés de protéines anormales, des protéines citrullinées. Hein. Ça fait des auto-antigènes, si vous voulez, qui sont caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde. Hein. C'est ces facteurs rhumatoïdes dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, on sait bien faire le diagnostic, il n'y a pas de problème.
Bien. Alors, puisqu'on parle des facteurs de risque comme la dysbiose, comme les infections bactériennes, il y a des facteurs aussi environnementaux. Le cadmium est cité comme facteur de risque.
Oui, mais bon, vous vous rappelez que tout polluant peut altérer les gènes, les protéines, donc contribuer à l'auto-immunité. Si on étudie en Corée 53 829 personnes, les chercheurs arrivent en 2019 à la conclusion que ceux qui sont le plus exposés à ce cadmium, un métal lourd présent dans le tabac, mais les aliments aussi, ont 19 fois plus de risques de développer une polyarthrite rhumatoïde que ceux qui sont le moins exposés. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que nous, on n'est pas coréen, mais on a quand même le problème du cadmium. Et quelle est la source principale, à part le tabac? Bon, les fumeurs, là, le tabac concentre le cadmium, donc bon, entre les 7000 toxiques qu'ils ont dedans, voilà. Mais nous, les non-fumeurs, sont exposés aussi en France et en Europe via les engrais. Hein, parce que vous savez qu'avec l'agriculture intensive, on épuise tellement les sols, ils sont absolument stériles si on ne met pas d'engrais dedans. Donc, on met des phosphates, des dérivés azotés, etc., qui coûtent très cher, qu'il faut importer. Et ces phosphates sont contaminés par du cadmium la plupart du temps. Donc, ça, c'est pas une très bonne nouvelle.
Alors, juste sur le site de l'ANSES, ce qui est terrible, c'est bon, il rappelle que le cadmium, on en trouve bon, dans le tabac, vous l'avez dit, mais dans l'alimentation, le pain, les légumes, les pommes de terre, les algues aussi, qui ont tendance à accumuler cet élément. Et donc, un quart des algues destinées à l'alimentation contiendraient une concentration maximale de cadmium. Et alors, vous savez à quel niveau nous sommes exposés au cadmium? 0,6% des consommateurs adultes, 14% des consommateurs enfants de 3 à 17 ans, 14%, et jusqu'à 36% des consommateurs enfants de moins de 3 ans, c'est de la folie.
Ben, oui, mais vous vous rendez compte que c'est comme ça pour les pesticides, pour les PFAS, le TFA, là, on vient d'en trouver dans le vin. Dans des bouteilles de vin, un dérivé petit des polluants éternels qui était à des doses incroyables. C'est terrible, quoi.
Oh là là, allez, on va marquer une toute petite pause et on va revenir dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. Vous êtes sur Nutri Radio, merci.
Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro 1 sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress pour un quotidien plus sain et équilibré. Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. On parle de polyarthrite rhumatoïde aujourd'hui. Alors bon, on a vu les... Bon, à partir de 50 ans, ça s'accélère. À 60 ans, de toute façon, plus ça va, plus on est sur la pente, la piste noire de la vieillesse et de la...
Alors, on peut l'aménager, hein, on peut... Non, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, dont Okinawa, un programme global pour mieux vivre. Non, on peut ralentir le mouvement. Bon, pour le moment, je ne peux pas vous l'annoncer, on ne veut pas arrêter de mourir. C'est dommage, mais
ah, bon, on attendait
on
le y scoop.
Est pas, on n'y est pas encore.
Quoique.
Là, c'est pas d'actualité. Mais on peut ralentir quand même le mouvement, et ça a un double effet, si vous voulez, c'est d'abord de vivre plus longtemps, mais surtout en bonne santé, c'est ça. De retarder ou même d'éviter complètement la plupart des maladies dégénératives, parce que c'est le même phénomène en fait.
Bien, alors on va continuer sur à parler, à évoquer la rhumatoïde polyarthrite, la polyarthrite rhumatoïde, n'importe quoi, en parlant des gènes, de la génétique et les susceptibilités.
Oui, alors bon. Très rapidement, on avait parlé un peu de la pollution, si tu me permets, Fabrice, de revenir un petit peu en arrière. Mais bon, étonnamment, même la pollution aérienne a été montrée être un facteur de risque. Hein. Voilà. Puis quelques médicaments, des bêta-bloquants, bon.
Oui, donc alors, on a vu cadmium, pollution environnementale, pollution de l'air, avec les particules ultra fines qui sont considérées comme un facteur majeur.
Bon. Et qui n'étaient pas dosées, qui ne sont pas dosées dans l'air ni dans l'eau.
D'accord.
Et il y a de 1000 à 10 000 fois plus de nanoparticules que de microparticules, et dans l'eau et dans l'air, qui ne sont pas analysées. Et c'est les plus toxiques parce que plus petit, ça passe plus facilement dans le sang encore.
Et pourquoi elles ne sont pas analysées? Parce que
c'est parce que c'était un problème technique. Au départ, on ne savait pas les doser. Maintenant, on le sait, mais on a quelques capteurs pilotes. Voilà. Ça a permis, par exemple, l'année dernière, de découvrir qu'on pensait au départ qu'il y avait de 30 à 1000 microplastiques par litre d'eau en bouteille plastique. Et on découvre qu'il y en a 240 000 nanoplastiques. Vous voyez un peu, on n'est pas dans la même échelle. Mais ça, c'est évidemment, on n'avait pas la technique avant. Donc, on ne peut pas le voir.
Ouais, bah plus la technique avance, plus on s'aperçoit à quel point on est pollué. Et s'ils inventaient une autre technique demain pour aller encore plus loin dans le détail, ce ne serait pas 240 000, ce serait 2 400 000.
Écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'eau, là. Maintenant qu'on dose les métabolites, on retrouve 11 millions de Français qui ont une eau non potable au robinet, et avec les nouvelles normes.
Ah oui, et c'est passé, voilà, en amont. De l'eau, il y avait même des extraits enfin, il y avait même des excréments de matière fécale dans l'eau. On achetait un grand coup d'économie.
Ah oui. Oui, alors il y a justement de l'eau en bouteille, je n'étais pas au courant de celle-là, mais.
Ah si, une grande marque française, matière fécale dans l'eau. Bon, tout passe, tout lasse, et nous on trépasse. Oui. Alors parlez-nous un peu de génétique.
Et oui, et donc bon, il y a une part génétique bien étudiée dans la polyarthrite rhumatoïde, puisque la fréquence est de 15 à 30% chez les jumeaux identiques, alors que chez les jumeaux dizygotes, qui étaient en même temps dans le ventre de la mère, mais qui ne viennent pas du même œuf, ils sont de 5 à 10%. Oui. Bon. Si vous avez eu des parents qui ont une polyarthrite, votre risque est à 2 à 12%. Mais quel est le risque chez les gens qui ne sont pas dans ces catégories? De 0,5 à 1%. Oui, la différence. Donc, il y a un petit rôle, un des facteurs génétiques, mais qui est peut-être même un peu plus marqué dans cette pathologie auto-immune que dans d'autres. Vous rappelez le professeur Jean Dausset, qui a eu le prix Nobel pour découvrir les groupes sur les globules blancs, après les groupes ABO et Rhésus des globules rouges. Ça a permis la compatibilité de greffe, etc. C'était une révolution extraordinaire. Ces gènes HLA, qui permettent de vous rappeler de différencier le soi du non-soi, ils sont différents chez les porteurs de polyarthrite rhumatoïde, qui ont souvent la combinaison HLA-DR1-DR4. Bon. Et puis il y a d'autres gènes qui ont été impliqués, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ouais. C'est pas hyper intéressant, je pense, sur le plan pratique.
C'est trop technique, mais en tous les cas, on rappelle que les gènes HLA, c'est H, L et A, c'est pas les gènes HLA, spacer, etc. Locomotion, non, c'est les gènes HLA. Je reprécise pour les auditeurs qui ne connaîtraient rien à la génétique, tout comme moi d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est des marqueurs sur les globules blancs hein, qui donnent le, si vous voulez, en fait, qui différencient les susceptibilités à pas mal de pathologies ou d'autres. Donc on a fait des études de mettre en rapport la fréquence de tel HLA avec telle pathologie, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces conclusions.
On pourrait peut-être en reparler. De toute façon, dès qu'il y a un terme un petit peu technique, le mieux, c'est qu'on en reparle.
Il faut me reprendre et puis que je...
Non, et puis qu'on fasse, on peut même faire des émissions là-dessus. Les gènes HLA, c'est fabuleux. Ils sont au cœur de nombreuses maladies auto-immunes, donc il y a peut-être beaucoup de choses à dire pour une meilleure compréhension. Parlez-nous aussi du rôle des hormones et des perturbateurs endocriniens.
Oui, alors on a vu qu'il y a beaucoup plus de femmes touchées par les maladies auto-immunes. C'est peut-être pas seulement parce qu'elles ont une meilleure immunité, mais aussi parce que les hormones joueraient un rôle. Donc, on a déjà, par exemple, la thyroïde d'Hashimoto, c'est très connu, hein, elle est à 8 à 20 fois plus fréquente chez les femmes par rapport aux hommes. Et pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est de 4 à 5 fois déjà. Donc, sur les 5 à 6% de la population mondiale affectée par des maladies auto-immunes, 80% sont des femmes. C'est quand même assez spectaculaire. Donc, on a constaté, hein, les cliniciens, en suivant les patientes, ils ont constaté des exacerbations des symptômes pendant le cycle menstruel et au dernier trimestre de la grossesse, quand les hormones atteignent leur plus haut niveau. Alors qu'en début de grossesse, on a un peu l'effet inverse. Mais les chercheurs n'ont pas encore vraiment identifié les mécanismes de ces effets. Et on suspecte aussi, du coup, que les perturbateurs endocriniens joueraient un rôle aussi. Voilà. Bon, c'est donc un travail en cours, ça, c'est work in progress.
Très bien. Bah, écoutez, dès que vous avez des nouvelles là-dessus, vous nous tenez au courant, évidemment, Jean-Paul. Pour continuer sur le déroulé de cette émission. Bon, je n'ose pas trop vous poser de questions parce que j'ai l'impression des fois que je perturbe votre...
Non, pas du tout.
votre déroulé. Mais donc, on a parlé du rôle des hormones. En quoi une simple inflammation locale, comme une parodontite par exemple, peut contribuer à un processus auto-humain systémique?
Oui. Alors là, c'était connu déjà pour d'autres facteurs, par exemple les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Le fait d'avoir une inflammation, plus ou moins des infections chroniques dans les gencives, peut permettre l'émission, si vous voulez, de bactéries qui passent dans le sang et qui vont attaquer d'autres tissus. Et donc, ce phénomène est aussi suspecté dans la polyarthrite rhumatoïde et dans d'autres pathologies auto-immunes et inflammatoires.
D'accord, donc c'est une conséquence directe, la polyarthrite, d'une inflammation, enfin d'un emballement inflammatoire mal contrôlé ?
Non, on ne peut pas dire que ça peut être un cofacteur qui s'ajoute encore à tout ce qu'on a déjà vu, quoi. Mais ça ne peut pas être la cause pure. Non. La parodontopathie ou une autre infection. Par exemple, on a montré aussi dans l'Alzheimer que la sinusite chronique, hein, quand vous avez une sinusite chronique, y a de l'inflammation et des germes qui peuvent passer par le bulbe olfactif et contribuer à l'inflammation cérébrale. Bon, ça, on ne le savait pas avant, mais voilà.
Sinusite chronique, écoutez, hop, je note ça parce que je pense qu'il faut faire une émission là-dessus. Il y a beaucoup, je connais plein de personnes qui vivent avec, non mais depuis longtemps.
Oui, bah oui, je sais bien.
Mais donc là, quand on voit un petit peu les dangers que ça peut représenter sur le long terme, hop, faisons une petite émission là-dessus, peut-être une petite commande pour la saison prochaine, j'en sais rien. Mais c'est un sujet...
Je note.
C'est un sujet intraité. Alors, il y a des articulations qui sont plus touchées que d'autres, pourquoi ?
Oui, alors, ça, on ne peut pas l'expliquer, souvent les doigts, les poignets, ça commence souvent par les extrémités, les pieds, les coudes, les chevilles, voilà. Plus rarement, le dos, donc les grosses articulations sont moins... Alors, ce qui est assez caractéristique, c'est, quand c'est inflammatoire, ça peut réveiller la nuit. Le matin, il faut un temps de déverrouillage hein, pour se mettre en route. C'est le truc classique que connaissent tous les gens qui ont des problèmes rhumatologiques, quoi. Toutes ces articulations sont enveloppées par une capsule synoviale hein, qui contient un liquide. S'il n'y a pas de liquide dans l'articulation, on ne pourrait pas bouger. Hein. Il faut qu'il y ait une lubrification hein, pour que les cartilages glissent harmonieusement sans s'abîmer les uns sur les autres. Donc il y a ce liquide synovial qui est retenu par la capsule qui donc lubrifie l'articulation. Et en fait... Quand on fait une analyse des liquides synoviaux, on voit que dedans, il y a des cytokines, il y a des facteurs inflammatoires, les membranes de la capsule sont infiltrées, et on y trouve aussi les facteurs rhumatoïdes, les anticorps antiprotéines citrullinées, ça fait des complexes auto-immuns qui déclenchent l'activité d'autres globules blancs, et ainsi de suite... Voilà. Et on a même montré que comme dans le cancer, ou dans le surpoids, ou dans la DMLA, ou dans le placenta d'une femme enceinte qui permet les communications entre le bébé et la maman, il y a des proliférations de nouveaux vaisseaux, ce qu'on appelle l'angiogénèse, qui vont contribuer à amener plus de problèmes, voilà. Et puis ça évolue, quoi. Ça évolue, l'articulation déforme, elle est de plus en plus rigide, on a de plus en plus de mal à bouger, on a de plus en plus mal. Ça peut faire des excroissances, hein, le cartilage se met à faire des... Il faut rappeler que l'inflammation favorise la prolifération cellulaire, et donc on peut avoir ce qu'on appelle des becs de perroquet. C'est avec l'évolution, on a carrément des excroissances qui déforment l'articulation.
Mmh. Ouais. On est encore une fois le moral bien remonté.
Oui, bon, ça c'est pour les cas graves. Hein. Mais oui, on voit ça. Si vous regardez vous vous rappelez le peintre Renoir, tout le monde connaît, je pense. Mm-hmm. Regardez la fin de sa vie et ses mains. C'était terrible, le pauvre. Il avait les mains complètement déformées.
Alors justement, c'est quoi pourquoi on va dire que la polyarthrite elle a une évolution si variable d'une personne à l'autre ? Quels sont les marqueurs de gravité ?
Oui. Alors, le marqueur de gravité, c'est la douleur, c'est la déformation, c'est l'intensité inflammatoire, bien sûr. Et puis, éventuellement, ces déformations, combien de...
Mais
elle est différente. L'évolution peut être très différente. Il y a des gens qui restent avec des pathologies assez bénignes, assez supportables, et puis d'autres qui... Voilà, ça se dégrade énormément.
Avec des atteintes cardiovasculaires aussi.
Pardon ?
Avec des atteintes cardiovasculaires aussi.
Alors, malheureusement, on est dans l'inflammation. Donc l'inflammation, elle diffuse, et on l'a vu par exemple du tube digestif jusqu'au cerveau, à tous les organes. Donc quand il y a de l'inflammation quelque part, on a même vu les gencives, là, on vient d'en parler, ça peut se diffuser. Malheureusement, elles ont tendance, les inflammations, à se diffuser. Ça implique des globules blancs qui s'activent et qui sécrètent des messagers, hein, les cytokines, qui vont diffuser aussi l'inflammation ailleurs, multiplier les globules blancs et aggraver le problème. Mais donc, on constate, si vous voulez, toujours pareil, il y a ce que voient les chercheurs essaient de décrypter ce qui se passe au niveau moléculaire, et puis il y a les cliniciens qui regardent ce qui se passe chez le patient. Hein. Les deux sont importants, et on essaie de faire la liaison la plus étroite possible entre les deux. Et les cliniciens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils voient que 35% des malades, ils ont un seul épisode dans leur vie qui dure de 2 à 3 ans, et puis il y en a 50% qui subissent des poussées suivies de rémission. Et une détérioration, par contre, qui progresse un petit peu comme la sclérose en plaques, hein, où ça s'aggrave à chaque poussée. Et enfin, 15% voient leur maladie progresser continuellement. Alors, pourquoi ces trois schémas différents? Là, voilà, en général, ça peut être lié à ces facteurs de risque dont on a parlé. Qu'est-ce que mangent aussi les gens, leur niveau de stress, etc., etc., leur carence. On peut moduler l'épigénétique, qui va jouer un rôle important dans la vitesse d'évolution de ces problèmes.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, si vous voulez bien, Jean-Paul, c'est une suggestion, mais sentez-vous libre de me dire en direct devant tous les auditeurs, Fabrice, pas question, mais ce qu'on voulait bien, on peut la semaine prochaine aborder l'usage massif d'anti-inflammatoires et de corticoïdes. Est-ce que c'est encore justifié de les utiliser? Vous nous donnerez votre avis. Et puis, surtout, j'imagine que vous allez nous donner un petit peu des approches naturelles pour être dans la prévention et pour être dans aussi peut-être l'accompagnement de tout cela. Oui, non, vous allez nous laisser juste sur ces mauvaises nouvelles, Jean-Paul.
Ah non, 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 bien sûr, on va parler des solutions.
Voilà.
C'est ça, on fait c'est... que ça dans cette émission, mais on parle des solutions aussi.
Et vous savez, on est de plus en plus, il y a de plus en plus d'auditeurs qui vous écoutent. Donc peut-être que certains vous découvrent aujourd'hui, par exemple, en se disant, mais ok, c'est bien beau, je suis déprimé. Maintenant, voilà, j'ai pas le moral, mais rassurez-vous, il y a le constat qui est scientifique, analysé, les résultats de la recherche et des connaissances donc de Jean-Paul Curtet. Il y a un constat, et une fois qu'on a le bon constat, on vous donne des approches naturelles, des préventions, ce que vous pouvez faire pour retarder, pour accompagner, toujours bien évidemment avec votre professionnel de santé. Si vous avez un souci vous-même, hein, vous vous rapprochez de votre professionnel et en écoutant ces émissions, sachez qu'il sera d'autant plus compétent à traiter ce que vous avez à vous aider, n'est-ce pas mon cher Jean-Paul?
Écoutez, oui, l'information c'est essentiel évidemment, et nos confrères et consoeurs n'ont pas toujours le temps de bien s'informer. Et puis malheureusement, comme vous le savez, la nutrition est quasiment absente du cursus médical.
Exactement, donc on court de rattrapage chaque lundi, notamment avec le docteur Jean-Paul Curtet, c'est sur Nutri Radio, et on va se retrouver donc la semaine prochaine. La fin de saison approche à grands pas malheureusement, mais mon petit doigt me dit qu'on va vous retrouver on a plein de choses à faire, plein de choses à vivre ensemble. On va vous retrouver aussi sur Nutri TV, sur le Nutri Journal qui va sortir bientôt, on s'en reparle. Mesdames, messieurs, c'est Jean-Paul Curtet, sous vos applaudissements. Ah non, mince, on s'est trompé. Allez, merci Jean-Paul.
Allez, merci Fabrice, à la semaine prochaine.
L'émission, elle est dispo en podcast tout de suite si vous voulez la réécouter.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.